Moi, ce que j'ai envie d'apprendre à mes élèves, aux gens qui viennent voir, c'est à se trouver eux-mêmes avec des choses naturelles, avec les vibrations d'un tambour, avec l'utilisation de votre respiration, avec la méditation, avec des techniques qui sont très proches de la psychologie d'ailleurs, comme Carl Jung le faisait.
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, reposantes, sans prise de tête, sans stress. Aujourd'hui, je reçois Karine Kleb, ou plutôt c'est elle qui me reçoit, chez elle. Karine est professeure de yoga et bien plus que cela, puisqu'elle se définit comme une chamane urbaine. Mais n'allez pas croire qu'elle est complètement allumée, hein, loin de là. Une épreuve qui l'a accompagnée durant son enfance et son adolescence lui a permis de développer des trésors de résistance et de résilience. Karine est profondément ancrée dans le réel et son but, c'est de rendre ce réel, quel qu'il soit, merveilleux plutôt que juste supportable. Le massage et la méditation sont quelques-uns des outils qu'elle utilise pour aider chacun à prendre soin de son corps, de son esprit et de sa vie, quoi. Adepte de la slow life, Karine nous appelle à ralentir. Ouais, la vie est courte, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la traverser comme si on courait un 100 mètres. Alors elle va nous apprendre à ralentir. C'est pas mal comme programme pour la rentrée, vous ne trouvez pas? Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Karine.
Bonjour Chantal.
Karine, sur ton site, tu parles de ta mère et de ta grand-mère. Que t'ont-elles transmis?
Alors, ma mère et ma grand-mère m'ont transmis l'envie de vivre déjà, puisque je suis née avec une maladie génétique assez rare. Et les médecins leur avaient dit que ça ne servait à rien de s'accrocher à moi. Donc, voyant que la médecine ne faisait pas grand-chose pour moi, j'ai passé donc mon enfance et mon adolescence dans les hôpitaux. Et elles ont décidé de suivre l'aspect un peu plus naturel, de m'apprendre à respirer pour vaincre la douleur. Quand vous êtes sur un lit d'hôpital et qu'on vient vous ausculter comme un animal de laboratoire, c'est pas forcément évident quand vous êtes une petite fille et une adolescente. Donc elles m'ont appris à respirer. On appelle ça aujourd'hui la sophrologie ou la méditation. Nous, on n'avait pas labellisé ce qu'on était en train de faire. Elles m'ont aussi appris à se nourrir correctement, à me nourrir correctement. Parce que la première médecine, c'est apprendre à se nourrir correctement avec les fruits et les légumes, avec pas beaucoup forcément de viande. Avec des légumes ou des fruits qui n'ont pas été touchés par des produits toxiques. Aujourd'hui, on appelle ça bio. Ouais. Mais avant, on n'appelait pas ça comme ça. Il n'y avait pas de nom. Et puis, à se connecter aux saisons. Donc, ça a été un support merveilleux. Donc, ça, elles me l'ont... Voilà, c'est ce qu'elles m'ont transmis en priorité.
Et tu te définis comme une thérapeute holistique et surtout une chamane urbaine. Mmh. Alors, comment devient-on une chamane dans un environnement citadin comme celui dans lequel on vit?
Alors, déjà, pour répondre à ta question, je pense qu'on ne devient pas du jour au lendemain chamane, comme on ne devient pas du jour au lendemain thérapeute holistique. C'est un long cheminement, c'est un parcours d'une vie. À travers mon expérience, encore une fois, de la maladie qui m'a atteinte physiquement et émotionnellement. J'ai eu la chance de rencontrer de merveilleux professeurs, des prêtres, des chamans, et qui m'ont initiée à ce style de vie. Et comme la philosophie tantrique, en fait, vous apprend, vous transcendez votre environnement, votre histoire, pour le transformer en quelque chose de positif, pour l'utiliser. C'est ce qu'on appelle l'alchimie. Donc en fait, vous pouvez très bien vivre en milieu urbain, cette manière de vivre, parce que c'est un vrai style de vie. Vous transcendez, vous transformez le bruit, la consommation, le stress permanent en quelque chose d'extrêmement positif. Vous utilisez tous ces éléments comme une boîte à outils pour votre bien-être. Et puis quoi qu'il en soit, même si vous vivez dans une ville, si vous sortez, vous voyez bien que vous avez la lumière, vous avez le ciel, vous avez le vent, l'air, l'espace, des petits bouts de nature. La lune, elle est toujours là, le soleil est toujours là. Donc la nature, elle est toujours là autour de vous. Vous n'avez pas besoin de vivre dans une cabane comme les ascètes du 5e siècle pour pouvoir être chaman et être en communion avec vous-même et avec la nature.
Oui, mais ça demande quand même un apprentissage.
Ça demande un apprentissage, bien sûr. C'est, encore une fois, c'est très long. Donc, je pense que le premier apprentissage, c'est d'être connecté à soi-même, d'apprendre à se connaître. Aujourd'hui, vous allez construire votre histoire sous le regard de vos parents, sous le regard de la société, sur ce que les autres ont envie que vous soyez, et vous oubliez qui vous êtes. Donc c'est ça la première chose qu'un chaman vous apprend. C'est d'enlever votre conditionnement pour vous retrouver, pour trouver un équilibre entre votre corps et votre esprit. C'est ça la première initiation. Donc ça va pas être un chaman, c'est pas quelqu'un qui va se transformer en loup-garou à la tombée de la nuit. C'est pas quelqu'un qui va avoir des pouvoirs magiques comme on peut l'entendre ou le voir. Moi, par exemple, je ne travaille certainement pas avec des drogues hallucinogènes.
Ouais, parce que souvent, on associe le chamanisme aux drogues hallucinogènes.
Ouais. Voilà. Mais non, parce que c'est du superficiel. Moi, ce que j'ai envie d'apprendre à mes élèves, aux gens qui viennent voir, c'est à se trouver eux-mêmes avec des choses naturelles, avec les vibrations d'un tambour, avec l'utilisation de votre respiration, avec la méditation, avec des techniques qui sont très proches de la psychologie d'ailleurs, comme Carl Jung le faisait. Donc c'est pas si ésotérique et si magique entre guillemets.
Voilà. Et alors vous avez justement d'autres cordes, tu as d'autres cordes à ton arc. Voilà, tu utilises le Reiki, la méditation, mm-hmm. l'aromathérapie, mm-hmm. la lithothérapie aussi.
Ouais.
Donc c'est un peu la science des
cristaux,
pierres, des cristaux.
Ouais.
Comment tout cela s'articule en fait ? Quel est le lien entre toutes ces pratiques qui sont assez différentes finalement ?
Alors ça, c'est effectivement mon approche holistique. Disons que, imagine un ébéniste qui a un morceau de bois face à lui. Il va sentir l'essence, il va toucher ce bois, il va comprendre comment ce morceau de bois vit. Et à côté de lui, il a une caisse à outils. Et il va utiliser un par un ses outils pour pouvoir transformer cette planche de bois nu en une armoire, en un joli banc, etc. Alors moi, je fais pareil. Je rencontre mes élèves, mes étudiants, et ils vont me partager quelque chose de leur vie. Et à travers ça, je vais aller puiser tel ou tel outil pour pouvoir leur apporter un support et leur faire parcourir marche après marche ce chemin de mieux-être. Alors encore une fois, moi ce que j'explique, je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni psychologue. Je n'ai pas de baguette magique pour enlever telle ou telle maladie. Ce n'est pas vrai, ça s'appelle du charlatanisme, ça.
Mais d'accord.
En revanche, tout ça, tous mes outils, que ce soit les cristaux, le reiki, le yoga, la méditation, etc., ce sont des supports qui vont aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes, à comprendre qui ils sont, à mieux s'accepter, à se découvrir ou à se redécouvrir vers ce chemin de mieux-être.
Et alors, tu enseignes le yoga, hein, c'est une de
oui.
tes grandes passions. Alors, quel yoga enseignes-tu et pourquoi as-tu choisi, si tant est qu'on le choisisse, celui-là ?
Moi, j'aime bien ce que tu viens de dire, si tant est qu'on le choisisse. Alors, je vais déjà commencer par mon type de yoga. Donc moi, j'ai une approche, encore une fois, holistique de mon yoga. C'est Scaravelli Inspired que j'ai trouvé en Angleterre, par hasard. Je raconterai ça un peu plus tard, auquel je rajoute bien évidemment les petits outils dont j'ai parlé, avec le travail de l'énergie. Donc c'est un Hatha yoga qui est extrêmement doux avec cette approche holistique. C'est comme si tu bougeais sous l'eau, pour pouvoir éviter les mouvements robotiques, pour pouvoir comprendre chaque mouvement. Donc, c'est un yoga qui est exigeant, mais qui est doux, donc qui est facile pour tous les débutants, j'ai envie de dire de 7 à 77 ans, ou voire plus, peu importe que tu sois souple ou pas, peu importe ton état de santé. J'ai une très bonne connaissance anatomique. Un de mes professeurs d'anatomie est un des ostéopathes du Royal Ballet of London. Donc 2 ans d'anatomie pour comprendre comment le corps fonctionne. J'en peux pas faire de yoga, enfin en tout cas enseigner le yoga, sans avoir cette bonne connaissance du corps. Comment je l'ai découvert? Alors, il y a très longtemps, il y a très 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 longtemps, comme si j'étais une vieille dame si tu veux, j'ai acheté mon premier livre de chakras. Et puis j'ai commencé cette méditation aussi, et je me souviens que c'était absolument fabuleux, j'ai commencé à bouger, c'était merveilleux cette reconnexion au corps, et puis je me suis décidée à trouver des studios à droite à gauche. Alors c'était très dur à l'époque, parce que, encore une fois, le yoga était bizarrement vu.
C'était à quelle époque à peu près?
Est-ce que vraiment je dois le dire?
C'était pas si vieux.
J'avais une vingtaine d'années. Allez, c'était il y a 2 ans et demi.
Voilà.
C'était, si tu veux, encore une fois, le yoga, c'est pas un dogme, c'est pas une religion, c'est pas une secte, c'est rien de tout ça. C'est un style de vie. Et bref, j'ai essayé l'ashtanga, j'ai essayé le vinyasa, enfin, je suis passée à plein de choses. C'est qu'un jour, je sois en Angleterre, et puis il y a une dame qui était juste devant le studio de yoga où j'allais tous les jours, qui me demande une petite photo pour que je puisse l'aider à se prendre en photo. Et elle m'a dit, écoute, tu devrais aller voir cette prof, elle est géniale, etc. J'en avais jamais entendu parler, moi, de ce yoga-là. Et ce yoga-là, en fait, c'est un yoga qui, comme je l'ai dit, est très doux. Mais on travaille essentiellement sur la colonne vertébrale qui est la clé du corps. Et donc quand tu crées de l'espace dans ton corps, tu vas créer de l'espace dans tes émotions, dans ta tête. Voilà, donc ça a été un hasard, si on peut dire que c'était un hasard.
Et du coup, c'est quelque chose qui est donc plutôt autour du dos et de la posture ou...
Plutôt dans l'apologie de la lenteur.
Ouais.
Alors moi, j'aime bien ça, tu vois, l'apologie de la lenteur. On peut se reconnecter à soi quand tu es dans la lenteur et dans vraiment ce que tu fais. Tu vas à l'opposé de ce que la société te demande. Tu n'es pas dans l'efficacité, tu es moins dans le faire, tu es plus dans les émotions.
Et donc physiquement, comment ça se traduit pour quelqu'un qui pratique? Est-ce que, je sais pas, il va voir ses muscles se délier, sa silhouette se modifier, ou est-ce que c'est plus spirituel quelque part?
En fait, c'est un peu des deux, c'est-à-dire que les dommages collatéraux, si je puis dire, c'est que forcément ton corps va se renforcer. Si tu renforces ton corps, tu rends ta santé plus forte aussi. Et puis tu vas libérer ce que tu as à libérer émotionnellement aussi sur ton tapis, parce que quand tu es concentré pendant 1 heure ou 1 heure et demie sur ton tapis, t'es pas en train de gamberger sur tout le malheur qui s'aboie sur toi. Et alors ce bien-être physique et émotionnel, ce relâchement et ce lâcher prise, petit à petit vont se graver dans ton cerveau, dans ton corps, dans chaque parcelle de ton corps. Et ça va quitter le tapis, ça va te suivre tout au long de la journée. C'est ça que j'aime avec le yoga que j'enseigne.
Et alors, tu organises aussi des retraites.
Oui.
J'ai vu ça. C'est quelque chose que les pratiquantes de yoga connaissent, mm-hmm, et qui se développe de plus en plus en France. En quoi consistent tes retraites à toi? Qui se passent, je crois, en Angleterre. Hein.
Alors, ça se passe un petit peu partout, puisque... J'en ai fait une en novembre dernier à l'île Maurice. Je recommence d'ailleurs, c'est à l'hôtel Telfair. Ça sera au mois de février 2019 encore, du 23 février au 11 mars 2019 à l'hôtel Telfair, où ils organisent en fait des semaines de wellness chaque année, toutes les semaines, et moi je retourne. Donc là, c'est une séance de yoga le matin, une séance de yoga le soir en connexion avec la nature, puisque c'est le coucher du soleil. Et j'organise des activités, enfin des workshops, des ateliers. de reconnexion avec soi-même. Donc, j'avais utilisé l'aromathérapie, qui est un bon support, comme la Madeleine de Proust. Ça nous rappelle des choses, ça éveille des sens.
Alors, tu exerces en Angleterre, hein, et tu te formes aussi là-bas.
Ouais.
Quelle est l'approche des Britanniques par rapport à celle des Français, par rapport à tout ce qui est holistique ? Est-ce que c'est très différent ? Est-ce qu'ils ont une autre vision de la chose ?
Alors, c'est vrai que je peux comparer, puisque je professe et en Angleterre et en France. Et l'approche holistique, voilà, les gens n'ont pas peur. Ils sont très, ce qu'on appelle open-minded. C'est-à-dire qu'ils ont l'esprit complètement ouvert. Ils sont prêts à essayer pour expérimenter ce qui pourrait leur faire du bien. Et je pense que c'est un problème aussi sociétal, c'est-à-dire que on se fait beaucoup moins rembourser les soins en Angleterre comparativement en France, donc il fallait bien trouver des solutions alternatives, d'où les médecines alternatives, les thérapies alternatives. Donc on retourne à l'essentiel, comme on faisait au bon vieux temps, avec la camomille par exemple pour pouvoir se calmer, ou la lavande, les petites gouttes de lavande. Ça paraît bête comme chou, mais en attendant ça fonctionne. Et alors il ne s'agit pas d'enlever complètement la médecine, moi je ne dirais jamais ça, mais disons que c'est quelque chose avec lequel vous pouvez travailler en accompagnement. Plutôt que de vous plonger pendant 10 ans dans un Lexomil, dans des anxiolytiques, bah peut-être que vous pouvez faire un peu de yoga, vous pouvez utiliser de l'aromathérapie, ça peut vous aider. Donc ils ont cet état d'esprit ouvert pour aller expérimenter. Mais moi, je suis convaincue qu'en France, on y arrive.
Oui, je pense aussi.
On revient à l'essentiel. On redécouvre les choses qu'on connaissait il y a 100 ans, 50 ans, même les méthodes de grand-mère, comme on appelle.
Oui, je pense. Je pense. On est sur la bonne voie.
Oui, moi j'y crois à ça.
Et quel serait justement ton conseil pour mieux vivre au quotidien, pour supporter le stress, la pression ?
Alors je parlais tout à l'heure de l'apologie de la lenteur. Mais pour moi c'est ça le vrai conseil. On a tendance à se réveiller le matin en ayant déjà son emploi du temps tout prêt. On est déjà plongé dans son emploi du temps et dans sa journée. Alors que peut-être, voilà, le conseil que je donnerais, c'est d'en faire un peu moins, mais de le faire mieux. D'arrêter d'être toujours dans cette efficacité, dans la course à l'emploi du temps pour pouvoir rentrer un maximum de choses. Faites moins de choses. Au lieu d'en faire 10, faites-en 5. Vous allez être moins stressé.
Au travail, c'est pas forcément évident.
Il faut savoir dire non.
Ouais.
Alors, il y a manière de dire, je comprends bien, quand vous êtes une maman, quand vous êtes ou un papa, parce qu'on s'adresse aussi aux hommes, une femme ou un homme qui est pris par son travail, mais encore une fois, vous n'êtes pas défini par votre travail. Voilà, l'apologie de la lenteur, même quand vous êtes chez vous, quand vous rentrez, prenez un moment de coupure entre le moment où vous rentrez de votre travail et le moment où vous allez être chez vous, peut-être en allumant une bougie parfumée, peut-être en vous ouvrant une bonne bouteille de vin, peut-être en allant vous prendre un verre en terrasse, maintenant que les jours commencent à être plus agréables. Prenez le temps de prendre soin de vous et de penser à vous.
Ouais, s'octroyer un sas de décompression.
De décompression, exactement. Et encore une fois, l'apologie de la lenteur, dès que vous le pouvez, en week-end, vous n'êtes pas obligé de vous dire, alors aujourd'hui, j'ai piscine, je dois faire tourner la machine à laver, je veux faire ci, ça, ça, ça. Faites-en moins. Personne va vous juger, personne vous punira, je vous jure, parce que c'est vous qui vous punissez. Vous vous autoflagellez en permanence. Vous méritez mieux.
Et vous avez un mantra, vous, qui vous porte tous les jours
Ouais.
Est-ce que c'est le même tout le temps? Est-ce qu'il change
Non, bah c'est le même et je l'ai gravé dans une bague, là, tu vois. C'est Carpe Diem.
Bien sûr.
Et je l'ai depuis mes 15 ans, tu vois, ce mantra. ce qui est passé est passé. Donc ça sert à rien, ça sert à rien d'être coupable de ce qui s'est passé sans se sentir coupable. Vous ne changerez pas le passé. Et puis à quoi sert de douter ou de se faire du souci sur ce qui va arriver puisque ça n'existe pas encore. La seule chose qui existe vraiment, c'est ici et maintenant. Donc vivez-le, savourez ce moment.
Et ça, le yoga, effectivement, entre autres, permet de le faire, quoi.
Oui, tout à fait, de savourer le moment.
Et la méditation.
Exactement.
J'oublie la méditation,
bien
c'est
sûr.
Super important.
Ouais. Bien sûr.
Merci Karine.
Merci Chantal.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et SoundCloud et profitez-en pour nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. N'oubliez pas également de suivre Beauty Toaster sur sa page Facebook et sur Instagram. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure.